je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises.
Alors écoutez, ben, je suis très heureux d'être là.
Merci. Et voilà, j'en souviens.
Et donc, je suis marié, j'ai 8 enfants, dont un certain nombre sont mariés, j'ai 9 petits-enfants, voilà. J'ai une activité d'horloger, je suis une petite entreprise d'horlogerie République, dans Creux du Temple, c'est le coin des horlogers. Et j'ai fondé en 2004 donc, l'Institut Léon Armel, voilà. Qui est une faculté libre d'éthique. Donc j'ai expliqué à table que c'est un statut pour qu'on distingue les universités d'État et l'enseignement supérieur privé. Voilà. Nous sommes rattachés à la Cato d'Angers, l'UCO, l'Université catholique de l'Ouest, qui délivre les diplômes que nous réalisons avec nos étudiants. Voilà. Sophie a eu le plaisir de faire le cursus de bioéthique. Donc on a 2 cursus, un de politique et un de bioéthique.
De politique,
voilà.
Politique. Dans lequel, engagement social. En fait.
Effectivement, oui, ça s'appelle un diplôme d'éthique sociale. Voilà, et un d'éthique de biomédical. Voilà, donc c'est les 2 cursus. On a aussi d'autres activités de formation. Il y avait les jeunes femmes des AFC. On est en train de réaliser avec les AFC un cursus sur la famille, voilà. À distance essentiellement. Que dire d'autre là-dessus? Je crois que c'est tout. Sinon qu'on est catholique, ça a l'air de rien. Mais finalement, il y a beaucoup d'institutions privées qui n'osent pas se dire catholique. On a fait vraiment le choix de dire qu'on était catholique et qui ne nous empêche pas d'ailleurs d'accueillir des gens extrêmement variés, des protestants, un peu de musulmans, mais c'est assez faible, et puis des gens qui ont des fois très diverses. Voilà. Et donc nous avons choisi en 2004 de prendre comme figure de proue Léon Armel, non pas qu'on avait un lien direct avec eux, mais j'allais dire un peu rapidement, mais c'est assez juste, que c'est plutôt Léon qui nous a choisi que nous l'ayons choisi. Alors, je connaissais, pour avoir fait un peu d'histoire, Léon Armel, mais je connaissais le triptyque Léon Armel, Albert Demain et René de la Tour du Pin. C'était le triptyque, je vais en parler. Disons que dans la droite catholique française, on est plutôt attaché à Albert Demain pour des tas de raisons, et je ne connaissais pas Léon Armel. Et quand j'ai choisi ce nom, je voulais quelqu'un qui n'ait pas de particules, qui ne soit pas militaire, alors que les 2 autres l'étaient. Voilà. Et donc, on a choisi Léon Armel, comme ça, entre guillemets, et on a appris à le découvrir, et l'apprécier et l'aimer. Voilà. Et donc, je suis très heureux de faire cette petite conférence et de présenter sa vie, ce qui est assez peu fait parce que c'est oublié. Et donc, de fait, Léon Armel est véritablement vit dans une période dans laquelle va se poser ce qu'on appelle la question ouvrière. Et cette question ouvrière va être la source à partir duquel l'Église va commencer à rédiger des documents qui vont constituer le corpus de la doctrine, même si aujourd'hui, quand on présente l'ensemble de la doctrine sociale de l'Église, on commence par dire que le premier pas de la doctrine sociale de l'Église, c'est quand même l'Évangile. Hein, l'Évangile, la période des pères de l'Église, et puis seulement, donc, à partir de la fin du XIXe siècle, l'ensemble du corpus, qui démarre vraiment sur ces questions dites sociales. Voilà. Et donc, on va voir à travers les réalisations de Léon, qu'il a véritablement été un précurseur, de façon peut-être pragmatique, spéculatif, c'est quelqu'un qui met en œuvre, un réalisateur. Vous verrez, il y a une petite phrase de Lyotet qui est assez amusante, dans laquelle il signifie que Léon est un réalisateur. Et c'est vrai. Et c'est pas simplement un réalisateur, j'allais dire, lui-même, mais il a le talent d'emporter les réalisations des autres et les initiatives des autres. Et du coup, autour de lui, va se créer des initiatives qui continuent et qui durent aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir. Alors, en 1929, ils ont fêté le 100e anniversaire de sa naissance. Et donc, il est très lié avec les papes. Vous allez voir, il est quand même, il vit sous 5 papes. Et donc, il va avoir une très grande amitié avec Léon XIII. Voilà. Alors, quand on a fait une BD, j'aurais pu commencer par vous dire ça. On a fait une magnifique BD. Et donc, elle est enfante ici, pas chère. Et donc, on voit Léon avec Léon XIII. Voilà. Et donc, on aura l'occasion d'en parler. Mais il y a aussi une cassette qu'on a fait, enfin, qu'on a fait avec la famille. D'ailleurs, les deux, on l'a fait avec la famille. Hein. La famille est encore très, j'allais dire, c'est elle qui porte le mieux encore, et c'est assez beau d'ailleurs, parce que une famille qui arrive à rassembler 400 membres pour l'anniversaire de son décès, là, il y a presque 2 ans, et c'était très beau et assez émouvant de voir que finalement. Malgré le temps, malgré aussi les dissensions familiales, parce qu'il y en a toujours, ils avaient quand même pas mal de fric finalement ces gens-là, et donc quand il y a beaucoup d'argent, ben, il y a beaucoup de problèmes. Donc voilà, c'est classique. Et bien malgré tout ça, il y a une certaine unité, et je pense quand même que c'est dû à, par grâce à la sainteté de ce cher Léon. Et donc voilà, un grand homme, et ce grand homme, eh bien, il continue à être apprécié. Il y a eu des choses extraordinaires chez nous. Certains intervenants à qui on demandait de venir faire des cours ont dit oui parce que c'était Léon. Et pas parce que c'était Jean Soubrier ou le travail qu'on faisait. Ils sont venus parce qu'il y avait ce nom de Léon. Et comme, parce que vraiment Léon a incarné quelque chose de juste dans l'Église. Quoi. Vous voyez, il a trouvé une posture qui est vraiment très juste. Et donc on a demandé au cher cardinal qui vient de partir, qui n'est pas toujours un homme drôle, hein, bon, ça on le sait bien, et bien pourtant, j'ai envoyé la demande de préface le lundi, et le samedi, je recevais la petite lettre qui est là. Voilà. Et donc j'en ai tiré cette petite phrase, et qui est, je trouve, assez belle, quoi, finalement, et qui dit bien d'ailleurs beaucoup de choses sur son job à Paris. Hein. C'est vrai que c'est pas parce qu'on ne se sent pas dépassé qu'on ne doit pas vivre selon le Christ. Voilà. Et dans cette modernité actuelle où on perd un peu les pédales, eh bien, on n'a qu'une seule boussole, c'est le Christ. Voilà. Et Léon a vécu dans une période bouleversée comme ça. Et de fait, il a réussi toujours à garder un cap. Et c'est assez beau. Alors, mon petit plan, ben, je vais quand même vous dire... dans quelle période eh bien, cet homme est né, et voilà, en quelques mots, hein, on ne va pas abuser de ça. Je passerai aussi un peu de temps sur sa biographie, parce qu'il y a quand même quelques grandes dates qui marquent son temps. Et puis, on verra surtout l'organisation de l'usine, qui était quand une espèce de vitrine, et qui était très visitée par les évêques, les cardinaux, les intellectuels, etc. Vous voyez, c'était une espèce de... C'était le truc qui marchait. Alors que tout le monde avait des grèves, c'était le bazar partout. Là, les gens étaient heureux. Et c'est très amusant parce que ce film qui était tourné sur l'usine des Val-des-Bois, avec les derniers ouvriers de l'usine, les gens disent « Travailler à l'usine, voilà, c'était le bonheur. » Faut le faire, quoi. C'est assez fabuleux. Bon. C'est dommage, elle est trop longue, elle fait 2 heures, donc c'est difficile à employer. Quoi. Je vous raconterai des petits trucs sur cette cassette, parce que le jour où on l'a... Alors, c'est nous qui avons organisé, j'allais dire, le financement, le travail sur le fond, à la fois de la BD et du film. Voilà, même si c'est la famille qui a payé par souscription. On a passé la cassette il y a maintenant 5 ou 6 ans à Reims, pareil, au même endroit que là où ils ont fait l'anniversaire de Léon, le centenaire de sa mort, cette fois-ci. Il y avait le dernier patron de l'usine. Et il a fait une découverte, je vous raconterai, une découverte qui l'a fait pleurer. C'est quand même un homme qui était assez âgé déjà, qui avait au moins 70 ou 75 ans. Bref. Voilà, alors donc on parlera de l'usine, son organisation, on verra les fruits qui demeurent, parce qu'il y a pas mal de fruits qui demeurent. Il y a beaucoup d'institutions chrétiennes qui aujourd'hui, au fond, ont démarré grâce à Léon. Et puis, on verra ce qui nous intéresse aussi pour aujourd'hui, c'est-à-dire que les débats que ça a suscité, enfin que toutes ces initiatives ont suscité, et puis ce que ça dit pour nous aujourd'hui, d'une certaine manière, ce que ça dit encore. Voilà, et puis j'ai une petite bibliographie que je vais donner d'ailleurs tout de suite. Voilà. Donc, Léon, il est... Donc, je disais que ce n'était pas un spéculatif, donc il n'a pas une œuvre, j'allais dire, littéraire ou intellectuelle. Il a quand même rédigé deux documents essentiels. Le manuel de Corporation Chrétienne, dans lequel il explique l'esprit et le fonctionnement de l'usine. C'est le cœur de cet ouvrage. C'est tout petit livre. Et puis, il a fait un petit document, le catéchisme du patron, qui est encore assez recherché, assez lu, c'est assez beau. Non, ben alors, moi, j'ai quelques documents que m'ont donné là, les Secours Armel. Donc, la sœur aînée de... La fille aînée de Léon, Anna. Donc, il a eu 9 enfants avec sa cousine Gabrielle. Léon a épousé sa cousine. C'était une Armel aussi. Ils ont eu 9 enfants, elle est morte assez vite, mais l'aînée Anna s'est mariée avec un monsieur Secours. Et un des descendants de cette fille aînée, Émeric Secours Armel, a rédigé pas mal de choses. Vous voyez, donc il y a, en particulier, il a fait un mémoire de Sciences Po, hein, et je l'ai rencontré assez souvent, un garçon charmant, il m'a donné pas mal de documents que j'ai ici. Alors certains sont assez anciens, d'autres moins. Il y a des choses assez amusantes. Il y a ce petit livre, c'est l'écho du Val-de-Bois, qui était publié, c'est donc celui-là, c'est de février 1913. Voilà. J'ai aussi l'organisation de l'usine, et j'ai utilisé ce document. Alors ça, c'est je crois que c'est de 22 ou de 23, donc c'est après la guerre 14. Donc on a reconstruit l'usine, ça je vous le dirai aussi, mais l'usine Armel, c'est 1925. C'est au moins 4 ou 5 reconstructions, parce qu'à Reims, les Allemands y sont passés plusieurs fois, et à chaque fois qu'ils passent, ils rasent. Donc voilà. Voilà, donc le grand livre, si vous voulez vraiment lire un livre... type littéraire, c'est le livre de Guiton, de Georges Guiton, que j'ai d'ailleurs aussi, que je n'ai pas amené, mais qui est une biographie vraiment intéressante et bien faite de Léon Armel. Donc, l'homme dans son temps. Donc, Léon est né en 1829 et il est décédé en novembre 1915. Voilà. Donc, c'est une période... qui va couvrir, en fait, toute la période de la Révolution industrielle française. Voilà, il a donc cinq papes. Hein. Évidemment, Grégoire XVI, ça ne va pas beaucoup l'intéresser, vu son âge à cette époque. Mais la période de maturité, c'est Pie IX, un petit peu, Léon XIII surtout, et puis Pie X. Bon, pendant cette période, ben, il y a quand même beaucoup de changements politiques en France. Il y a toute cette instabilité qui suit le Premier Empire, avec la Restauration, Charles X et Louis-Philippe, ces évolutions politiques et sociales. Et puis, un petit bout de Deuxième République, là, très rapidement, hein, en particulier avec Thiers. Et puis, enfin, le cœur de l'affaire, c'est quand même le Second Empire. Hein, le Second Empire, qui est une période historiquement reconnue comme étant une période de développement économique considérable, hein, du fait du développement de l'industrie, mais aussi du fait de la colonisation. Voilà. Et c'est vrai que Napoléon III a eu un sens du développement économique qui n'était pas ceux de ses prédécesseurs, que ce soit Napoléon Ier qui essentiellement a fait la guerre, ou que ce soit les monarques entre Louis XVIII et puis Charles X et Louis-Philippe. Si bien qu'il a vécu dans une période où la France était très riche. Vous vous souvenez que la France a payé les dommages de guerre de 70 plus rapidement que ce qu'on lui demandait, parce qu'elle avait beaucoup d'argent. Parce qu'on avait beaucoup d'argent. Voilà, et puis il a vécu aussi le retour de la République avec cette fameuse Troisième République des francs-maçons, hein, Clémenceau, Jules Ferry, Jules Grévy. Il faut aussi avoir bien en tête que la guerre de 14, c'est la volonté de Clémenceau. Si Clémenceau n'avait pas été là avec cette volonté farouche de la guerre pour tuer les empires chrétiens de l'Est ou du centre de l'Europe, on n'aurait pas eu la guerre 14. L'Allemagne était prête, on le sait, était prête à négocier. On aurait donné 2-3 colonies en Afrique, des petits bouts de colonies, le problème aurait été réglé. Mais Clémenceau voulait absolument la guerre. Voilà. Et donc, voilà, il a aussi vécu ce temps de l'anticléricalisme féroce, hein, de cette Troisième République. Et puis, malheureusement, la guerre. Donc il aura vécu, en gros, quelques révolutions, même s'il était à la campagne, si j'ose dire. Et puis deux guerres, celle de 70, avec l'échec français, la séparation de quand même des pays de l'Est. Ils ont eu chaud, ils sont à Reims, ils sont pas loin quand même de cette nouvelle ligne de démarcation qui se crée. Et puis la guerre de 14, dont il a vu le démarrage. Et c'est certain qu'il n'a pas, pas pu apprécier. Il était encore dans cette période où on pensait que la guerre serait courte. Mais comme vous le savez, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, dans tous ces papes, ces cinq papes, il est certain que... celui avec lequel il a eu plus d'amitié, c'est Léon XIII, et c'est Léon XIII aussi qui a le plus écrit. Le nombre de documents de Léon XIII, assez considérable. Vous allez sur le site du Vatican, vous tapez le nom d'encyclique de Léon XIII, c'est assez considérable. On en verra d'ailleurs quelques-unes. Et j'en ai même amené une ici, parce qu'on va en avoir besoin. C'est Gravers de Communire. Donc voilà. Là-dessus, rien à dire, sinon que vraiment, ces notions-là sont vraiment essentielles pour comprendre aussi la période et l'activité de cet homme. Quoi. Bon, on va parcourir ça rapidement, hein. J'ai tout mis là parce que sinon j'oublie les choses, mais je vous rassure, on ne va pas... Alors... il naît donc en 1829 à Ville-lès-Vassigny. C'est pas LES, il y a peut-être quelques fautes d'orthographe, hein, ne hurlez pas. LES, donc c'est une ville en Belgique. Sa famille est originaire de Belgique, des Ardennes belges, et son grand-père était déjà tisserand, et c'est lui qui va initier cette activité de tisserand et de fileur de laine. Et donc, il naît dans une famille qui a déjà une activité industrielle et qui a déjà mis en place des usines. C'est pas lui qui va créer les usines. Voilà, jeune, donc, il se pose la question du sacerdoce et il va faire des études de lettres à Senlis. Pour s'interroger sur sa vocation, finalement il y renonce, et donc il rentre en 1853 à Reims, et là il épouse sa cousine, et puis il se met au travail avec son père, hein, et très vite son père, qui n'est pas en très bonne santé, lui donne les rênes de l'entreprise. Donc il est très jeune, il devient directeur d'usine. Cette usine, elle est déjà gérée dans un esprit extrêmement chrétien. Et l'usine a déjà mis en place le sursalaire familial, ce qui est une très grande originalité. C'est-à-dire qu'on va payer plus l'ouvrier qui a des enfants, au prorata du nombre d'enfants. Donc il y a déjà un esprit familial et social, j'allais dire, et Léo Armel a été éduqué dans l'art. Il n'est pas né nulle part, il est vraiment, on est tous comme ça, on est... de quelqu'un et on engendre quelqu'un. Et donc, il y a un héritage là qui est très patent. Voilà. Vous voyez que sa femme, Gabrielle, décède très vite, hein, en 1870. Voilà. Et jusqu'à là, bah, finalement, il est un directeur d'usine, même s'il a démarré très jeune. Et il va rencontrer, donc après la guerre de 70, Albert Demain et René de la Tour du Pin, qui sont deux officiers qui ont été prisonniers à l'issue des combats de 70 et qui se sont interrogés sur l'avenir et le redressement de la France. Vous savez, quand la France est défaite, les officiers se disent toujours comment on va redresser la France. C'est un petit peu le cas de Vichy. Et là, on retrouve cet esprit-là. Et ils vont rencontrer Maurice Maignan, qui a fondé à Paris une société d'entraide sociale, hein, l'œuvre des cercles. Et Albert Demain et la Tour du Pin qui sont des hommes de l'aristocratie française, qui ont une culture, qui ont été officiers, qui ont de l'argent, vont venir, j'ai hâte, développer, mettre leur énergie à développer cette œuvre sociale. Et cette œuvre sociale va extrêmement bien fonctionner et va se répandre sur la France. Et, comment dirais-je, Léon va y être invité. Hein. Et Léon va trouver ça formidable. Et il va aussi être invité à présenter ce qu'il fait dans son usine. Parce qu'il a déjà mis en place un nombre de principes de management, pour employer un mot moderne, social. Et il va présenter ses conceptions de la management chrétien. Et ça va enthousiasmer les cercles, comment dirais-je, l'œuvre Les Cercles, et puis Albert Demain et la Tour du Pin, et il va prendre, j'allais dire, part au développement de ces cercles. Et grâce à ça, il va devenir, entre guillemets, un acteur de la, de, comment dirais-je, de ce qu'on appelle les chrétiens sociaux en France, et dont on retrouvera l'appellation dans l'encyclique de Léon XIII, Graves des Communiales. Voilà, et donc du coup, bien, c'est un bon orateur. Hein. S'il n'écrit pas, par contre, il sait parler aux foules, il sait communiquer son enthousiasme, et donc on va le voir assez souvent, j'allais dire, prendre la parole à travers les congrès qu'organise l'œuvre des cercles, alors en 73 à Nantes, puis à Lyon. Alors en 74, il a un problème, c'est que son usine brûle. En tout cas, la moitié de l'usine brûle. Et ce qui est assez notable, on peut le souligner et dire c'est la Providence, peu importe. Mais de fait, le feu s'arrête au pied de Notre-Dame de l'usine, qui est une grande statue, qui était, dans le local des femmes. Hein, et donc, tout ce qui était féminin, parce que c'est comme dans les usines du Nord, toutes les filatures, les hommes et les femmes étaient séparés. On ne travaille pas dans le même endroit. Voilà. Et vous avez un petit livre qui raconte très bien ça. C'est le petit quinquin. C'est un petit livre qui est très gros. C'est assez édifiant. Ouais. Le problème, c'est un, c'est de reprendre la production. Deux, c'est d'occuper les ouvriers. Et puis trois, c'est de reconstruire. Voilà. Et donc, il arrive à faire ça avec beaucoup de brio, assez rapidement. Hein, et il n'arrête pas l'essor de l'entreprise continue. C'est à ce moment-là, à la demande d'Albert Demain et la Tour du Pin, qui va rédiger ce petit livre sur le manuel d'une corporation chrétienne. Manuel d'ailleurs qui va inspirer, on retrouve des accents de Léon chez Léon XIII dans l'encyclique Rerum Novarum, puisque on dit habituellement que c'est une encyclique corporative, voilà, qui met en valeur la notion de corporation. Voilà, alors bon, il y a cette histoire d'inventeur de ce matériel-là qu'il crée, qui montre que ce n'est pas simplement un brasseur d'idées, ou, vous voyez, ou un manager d'hommes comme ça, mais de fait, c'est aussi un professionnel. On dira, c'est un gars qui, malgré le fait qu'il ait fait que des études de lettres, n'avait pas peur d'aller dans l'usine et puis d'aider les uns et les autres sur des questions de mécanique. Il savait mettre la main à la pâte. Voilà, alors on a parlé d'Albert Demain, enfin, Maurice Maignan, Albert Demain et la Tour du Pin. C'était pas mal d'en voir un peu les bouilles. De façon assez étonnante, mais c'est un peu comme chez les apôtres, ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas, ils n'ont pas les mêmes opinions, et ça pose des vrais problèmes. Et ça posera des problèmes de telle sorte que Léon démissionnera de l'œuvre des cercles. Parce qu'il y a une mésentente doctrinale avec Albert Demain. Voilà, et je vous dirai pourquoi, c'est un peu trop dommage de le dire tout de suite, mais il y a une mésentente doctrinale. Maurice Maignan est plutôt traditionnel dans sa conception, il est monarchiste, ils sont tous monarchistes. Parce qu'à cette époque-là, être républicain, c'était être avec le diable. Ils n'ont pas tout à fait tort, d'ailleurs. Mais disons que Léon XIII va les faire évoluer de ce point de vue-là. Et,
Léon Armel.
Non, Léon XIII. C'est Léon XIII. Et Léon Armel va suivre. Parce qu'en en fait, lui, il est déjà un peu dans l'optique de Léon XIII. C'est pour ça qu'ils vont bien s'entendre. Mais Albert Demain et la Tour des Pins ne suivront pas de la même manière. Voilà. En particulier... Albert Demain. Donc, Albert Demain va faire une carrière politique assez et littéraire, puisqu'il sera élu à l'Académie française, il sera député longuement, il va essayer de faire passer des lois sociales, mais il aura beaucoup de difficultés. Et René Latour du Pin sera plus un coordinateur. On verra sur différentes activités qu'il va mettre en place. Donc ça, il y avait la première partie, c'était l'essor de cet homme qui sort de rien, qui a hérité de ses usines, qui en fait une vitrine sociale et chrétienne, et cet essor va le conduire à Rome. Alors, donc en 1884, l'Église s'interroge sur ces questions sur cette question ouvrière, entre guillemets, que faire, comment faire, comment lutter aussi contre le socialisme. Vous savez qu'en France, il y avait tout un courant de pensée d'un socialisme français avec le fourierisme, entre autres. Les Allemands aussi avec leur courant. Il me semble que non, c'est pas là, mais si, voilà, vous voyez que donc Marx publie en 1894 son fameux livre donc Capital, Das Kapital. Hein. Donc il y a une effervescence politique et de la pensée qui a un objet, c'est le monde ouvrier. Et donc les chrétiens aussi s'interrogent, que faire ? Voilà. Et donc en 1884, René de la Tour du Pin, encouragé donc par Louis XIII, va organiser une sorte de groupe de réflexion internationale en Suisse, où il va réunir des grands patrons français, allemands, italiens, suisses. Et donc cet organisme va être une sorte de caisse des résonances de toutes les réflexions que les grands patrons mènent, les expérimentations qu'ils mènent dans leurs entreprises, et va être une sorte de lieu de conseil aussi pour Léon XIII. Alors on a beaucoup discuté, en particulier, de savoir si comment Léon XIII était appuyé sur l'Union de Fribourg. Il semblerait que... ce ne soit pas si important que ça. Mais disons que ça a été un moyen, en tout cas, de réunir des gens qui avaient tous le même objectif. C'était quand même de faire vivre les gens chrétiennement, de christianiser le travail, en quelque sorte. Hein. Et donc, à partir de ça, eh bien, les Français ont eu l'idée d'organiser des grands pèlerinages à Rome. Voilà. Pour, en particulier, soutenir, j'allais dire, la papauté par rapport à la République, l'esprit républicain français, qui faisait beaucoup d'ennuis, en particulier sur la question scolaire. Hein. Il y a eu tout un combat sur des problèmes d'enseignement, hein, parce que le républicain habituel, eh bien, il souhaite endoctriner ses troupes, et donc ce qu'il faut, c'est que surtout l'Église n'enseigne pas, sinon l'Église va prendre contre-pied de ce qu'enseigne la République. Et donc ces pèlerinages, qui au départ sont modestes, hein, sans industriel, eh bien vont devenir assez vite considérables. Vous voyez, le premier donc 100, le deuxième on est pratiquement à 1500, le troisième on est 10 000, et puis le quatrième on est 20 000. Au point même que la ville de Rome s'en inquiète. La ville de Rome, elle aussi, est à gauche et en guerre contre les États pontificaux et oblige les organisateurs à diviser les pèlerinages en deux pour qu'il n'y ait pas trop de monde, parce qu'ils ont peur. Bah, la France est allée quand même deux fois. Napoléon Ier est venu envoyer l'Italie. Napoléon III a essayé de faire pareil. Et donc, j'ai dit, est-ce que ça ne va pas recommencer, hein? Et donc, il y a toujours cette question des francs-maçons. Vous savez que les francs-maçons français ont joué un grand rôle dans la Révolution italienne. Hein. Et donc, voilà, il y a cette espèce de comment dirais-je, tout ce qui est d'église, et c'est pour eux dangereux. Et donc, ces pèlerinages, à travers ces pèlerinages que organise Léon, conjointement avec d'autres personnes, hein, dont le fameux cardinal Langénieux, eh bien, il va naître une amitié avec Léon XIII, des discussions, et il est certain que, on ne peut pas le nier, mais à travers ces échanges, il y a une notion qui va être bien comprise, parce qu'elle était extrêmement exprimée précisément dans le premier document que Léon a écrit sur les corporations, c'est que le travail n'est pas une marchandise. Le travail n'est pas un marché. Parce qu'à cette époque-là, eh bien, il y avait du recrutement au moins 10 ans. Vous avez 10 personnes qui viennent pour un même travail, et c'est celui qui demande le salaire le plus bas qui peut être embauché. Voyez, et donc, Léon dit, non, ça, c'est pas possible. Et il réfléchit à la question du juste salaire. Et la question, vous voyez, avant même qu'on ait réunion. Et donc, le premier élément doctrinal qu'il pose, c'est de dire le travail n'est pas une marchandise. Il est quelque chose qui est bien différent, puisque c'est un acte humain. Et cet acte humain, il nécessite la dignité de la personne. Voilà. Ça va être le cœur de la pensée de Léon Malle. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que le petit film s'appelle « la dignité des hommes ». Et donc, à l'issue de ces pèlerinages, en quelque sorte, eh bien, Léon XIII, pris par toute cette réflexion, est ému et va très vite dire « il faut que je rédige quelque chose ». Il a déjà rédigé des documents qui sont importants, d'ailleurs, qui comptent encore dans l'Église, hein, et en particulier sur l'enseignement. C'est lui, vous savez, qui va remettre saint Thomas à l'honneur dans l'Église et dans l'enseignement universitaire. Alors que saint Thomas, c'est quand même 12e siècle. Donc entre le 12e siècle et la fin du 19e, pratiquement, on n'entend plus parler de saint Thomas, ou quelque chose d'anecdotique. Alors saint Thomas, donc on a sa petite encyclique avec saint Thomas et saint Augustin, hein, qui sont remis à l'honneur dans l'enseignement de l'Église. Et donc, Léon XIII publie la première encyclique d'ordre social, Rerum Novarum, donc des choses nouvelles, où il prend en compte l'évolution de la société, et en particulier à la fois l'essor, enfin, la place des révolutions politiques, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Italie, et où il fait aussi, il prend en compte la révolution industrielle, avec cette nouvelle état des pays qui autrefois avait essentiellement une population rurale et qui maintenant a une population qui progressivement s'urbanise et viennent remplir les usines. Bon, restons raisonnables. La population française sera à égalité entre le monde rural et le monde urbain en 1936. D'accord ? Donc en 1936, il y a autant de gens qui vivent à la campagne que des gens qui habitent à la ville. Mais la question, elle n'est pas tellement à cette époque zone urbaine et zone rurale. La question, c'est la question de l'usine, de l'industrie, avec un mode de travail qui est extrêmement nouveau, le travail à la chaîne. Et donc ça, c'est une révolution par rapport à ce que le monde avait vécu autrefois, avec des travaux qui étaient soit de l'ordre de l'artisan et de l'artisanat, soit qui était le monde rural. Mais on n'avait jamais, j'allais dire, été confronté à un système de production qui ont été mis en place avec les usines. L'usine, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, Léon, comprenant ça, il a dit il faut qu'il y ait une usine chrétienne. L'usine chrétienne, voilà, ça c'était son idée. Voilà, et donc on voit ça c'était... le père Patrick Delobier, qui a beaucoup écrit et pensé sur la doctrine sociale de l'Église, qui expliquait que la doctrine sociale, elle a toujours une dimension, évidemment, d'enseignement, mais cette dimension d'enseignement, elle est prophétique, dans le sens où elle répond aux besoins du temps, et de fait, l'encyclique, elle est publiée juste avant Das Kapital, qui va répondre ses erreurs, et ses erreurs dont on porte encore les conséquences aujourd'hui, d'une certaine manière. Tout ça pour dire que si on avait bien lu l'encyclique, Reum Novarum, eh bien, on aurait compris les erreurs que nous proposait Marx. Mais les gens n'ont pas tout lu, puisque Reum Novarum est ce qu'on appelle l'encyclique racine, et dans lequel il y a en quelque sorte toute la doctrine sociale de l'Église. Et que le reste des publications ne sont que le développement de ce qui est posé en fondement dans Rerum Novarum. Avec évidemment deux critiques, celle du libéralisme, mais aussi du socialisme. Bon, il y a la question de l'affaire Dreyfus, ça nous intéresse aussi. Pourquoi ? Parce que ça soulève, ça souligne le fait que la France est devenue un pays divisé. Qu'il est difficile de sortir de ces divisions. Et que les divisions, elles ont des couches diverses et que on additionne ces couches et on peut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas sorti de ça. Voilà. Dernière partie de cette vie. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce qu'on voyait. Donc on voit donc ici. Léon XIII, ici c'est un ouvrier qui va être récompensé par Léon XIII, c'est ici le cardinal Langeneux, ça c'est Léon, ça c'est un fils de Léon, je crois que c'est aussi un fils de Léon, là. Voilà, après je ne connais pas tout le monde, mais voilà. Et donc, quand on était là-bas, eh bien le pape voulait que ce soit les cardinaux qui servent au repas. Là on a eu les sœurs qui nous ont servi là-bas, mais là du temps de Léon XIII, eh bien, les ouvriers étaient servis à table par les cardinaux. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça marcherait comme ça, mais enfin. Voilà, alors, quelques hommes qui ont accompagné Léon. Ça, c'est le fameux cardinal Langeneux. Alors, il l'appelle le cardinal des ouvriers. C'est marrant. Il était cardinal à Reims. Voilà. Le père Déon, qui était l'aumônier des cercles, l'œuvre des cercles, qui a joué un rôle assez important dans la vie de Léon, qui était un brillant intellectuel et qui a fondé les Pères du Sacraire, les Déonistes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et puis, le bienheureux Michel Ruat, donc, qui est le successeur de Don Bosco. Léon a aussi croisé dans les premiers pèlerinages Don Bosco, qui n'était pas encore décédé. Voilà. Et il est là. Hein. C'est pas le gars du milieu, c'est Don Ruat, il est là. Il est bien heureux, Don Ruat. Voilà. Et Léon, bien sûr. Voilà.
Ouais, il faut quelques photos, sinon c'est pas. Hein.
Voilà. Alors, les dernières années, je ne sais pas qui est l'heure il est. Ça va, non?
Oui, ça va. Tu en as pour longtemps encore ou... Ce serait bien si on avait des questions.
D'accord, oui. Je vais accélérer un peu la manœuvre. Donc, les dernières années, eh bien, vont être marquées par l'anticléricalisme de la Troisième République, hein, avec cette question de la séparation de l'Église et de l'État, à la fois par les exécutions donc, des ordres monastiques, et puis donc par la fameuse loi d'inventaire hein, des lieux de culte. Voilà, elle sera marquée aussi par l'affaire du Sillon. Donc le Sillon, c'était quelque chose qui ressemblait un peu à l'œuvre des cercles, mais qui était très politisé, qui était dirigé par un polytechnicien, donc Marc Sandier, et que Léon avait encouragé. Voilà. Donc souvent, on oppose deux mouvements, celui du Sillon et celui de l'Action française. Voilà. L'un était très à gauche, le Sillon, et l'autre était très à droite, on va dire, pour reprendre des terminaisons partisanes. Voilà. Alors, en 1912, Albert de Masse a une conversion. Alors, de quelle conversion il s'agit? En fait, il s'agit de la chose suivante, c'est que Léon Armel avait beaucoup insisté, et Léon XIII avait vraiment compris ça, c'est que les syndicats ouvriers devaient être dirigés par des ouvriers. Or, au XIXe siècle, dans toutes les usines, il y avait des syndicats. Mais ces syndicats étaient des syndicats patronaux, qui étaient donc dirigés par des patrons, en quelque sorte. Donc les gens n'avaient pas le choix, c'était garde à vous, vous vous attribuez au syndicat. L'argumentation de Léon, c'est de dire, mais si c'est les patrons qui dirigent tout, comment est-ce que les ouvriers peuvent exercer leur dignité s'ils ne sont pas cause responsable de leurs actes, vous voyez. Et donc, véritablement, dans Rerum Novarum, c'est un des points de Rerum Novarum, c'est la défense du syndicat ouvrier dirigé par des ouvriers et organisé par des ouvriers. Et ça, véritablement, c'est un point fondamental. Et Albert Demain ne s'était pas rangé à cette idée-là. Elle préconisait un syndicat mixte. Voilà. Et donc, en 1912, il se convertit et il renonce à cette idée du syndicat mixte. Voilà. Et donc Léon meurt à Nice parce que la France est envahie, ils ne peuvent pas rester au Val-de-Bois qui est occupé. Il y a quelques photos, on voit le Kaiser au Val-de-Bois, bref. Voilà. Alors je passe à l'usine et à ses méthodes. Donc l'usine de Léon Armel n'est pas une si grande usine que ça. Ça, c'est le premier point. Ça explique aussi pourquoi elle a réussi, l'expérience chrétienne a réussi. Ce n'est pas une très grande usine. C'est une usine dans laquelle, depuis longtemps, on a mis en place cet esprit chrétien. Et donc, il y a une certaine gradualité dans l'effort d'organisation chrétienne. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Bon, une usine, c'est des hommes. C'est bien sûr aussi des machines, c'est de la technique. Hein, et puis, c'est une organisation. L'usine du Val-de-Bois est au sud donc de Reims, c'est en pleine campagne. Ils ont créé ça ex nihilo, à côté d'une petite rivière, la Suippe. Hein, et on avait donc 600 salariés dans l'usine, et leur famille à côté, donc ça représentait à peu près 1200 personnes. Voilà. C'est pas si grand que ça. Il y a beaucoup d'entreprises à cette époque-là qui allaient jusqu'à 3000, 4000 personnes. Donc les grandes fonderies de l'Est, par exemple, avait atteigné des chiffres faciles qui tournaient autour de 10 000 personnes. Donc voilà, c'est small is beautiful. On a quelque chose qui est d'un point de vue de la taille raisonnable. Alors l'organisation de l'usine, elle est fondée sur une idée, c'est donc cette phrase de Léon, c'est de lui, le bien de l'ouvrier, par l'ouvrier, avec lui, jamais sans lui, à plus forte raison, jamais malgré lui. C'est vraiment quelque chose de fondamental, parce que ça reprend l'anthropologie chrétienne, qui est fondée sur trois choses, l'unité de la personne, Coréa, donc eh bien, l'ouvrier, comme un autre, il a le droit aussi à, c'est-à-dire avoir des aspirations spirituelles. Hein. Deuxièmement, la dignité. La dignité, qu'est-ce que c'est? C'est être cause responsable de ses actes. C'est donc avoir des responsabilités. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il soit plus idiot qu'un autre. Et troisièmement, eh bien, c'est la sociabilité. C'est-à-dire que ben, l'homme ne vit pas seul et il vit dans une organisation sociale. Voilà. Et donc, c'est ce principe anthropologique, on va le retrouver. Donc, il y a trois niveaux. Il y a l'organisation professionnelle, il y a l'organisation sociale et il y a l'organisation économique. Donc je reviens sur l'organisation professionnelle. Donc elle est fondée sur des conseils, c'est ce qui, j'allais dire, est le lieu où tout le monde peut parler, prendre part aux décisions et aux des décisions extrêmement concrètes. Sur les salaires, sur les tarifs, sur l'activité des uns et des autres. Et donc, il y a un syndicat ouvrier donc, qui est dirigé par des ouvriers, qui dispose de locaux, de moyens hein, pour, j'allais dire, mener ses activités. Il y a un conseil d'usine, et ça, c'est très original. Il est sans doute le premier à avoir mis en place ce qu'on appelle les comités d'entreprise. Voyez. Et donc, à travers ce conseil d'usine, on va régler ce que j'ai indiqué là, les accidents, les questions d'hygiène, l'apprentissage des ouvriers, des patrons. Les jeunes patrons, ils font un cursus qui est très proche de ceux des salariés. Et donc, ils passent par des étapes d'ouvriers, de contremaîtres, etc. Voilà, ce conseil d'usine décide aussi des salaires. C'est assez étonnant. Des revalorisations, des règlements, des réclamations. C'est incroyable. Hein, j'allais dire, Rocard a été très heureux de voir ça. Je ne pense pas qu'il le connaissait. C'est quasiment de l'autogestion. Et l'autodiscipline est faite à travers ce système-là. Il y a un conseil d'atelier et un conseil de perfectionnement et des commissions techniques. Alors tout ça est très lié. Alors le conseil d'atelier, c'est la même chose que le conseil d'usine, mais pour les femmes. C'est marre toujours. Les femmes sont toujours un peu dangereuses. Et puis, le conseil de perfectionnement, le conseil technique, c'est lié à des problèmes d'innovation et de mise en œuvre d'initiatives ouvrières. Si vous avez une bonne idée, eh bien, vous la signalez et le patron paye un essai pour mettre en œuvre cette... L'organisation professionnelle, elle est aussi liée à la famille. C'est ça qui est très étonnant. C'est que la famille a toujours eu pour Léon... a toujours été quelque chose d'essentiel et fondamental. Et là aussi, on rejoint la pensée de l'Église. Quoi. Hein? Et donc, c'est le premier, certainement en France, à avoir mis en place cette histoire de sursalaire. Parce que ce n'était pas lui, c'était son père, comme je vous l'ai expliqué. Il a mis en place aussi une pension de famille pour accueillir des jeunes filles. Ah, oh, je n'ai pas compris ça. Ben, c'est comme ça, expliqué comme ça. On accueille des jeunes filles, mais pas des jeunes hommes. Enfin, bon. Voilà. Il y a une caisse de famille, ancêtre des CAF, caisse de famille qui sera en lien avec un homme qui a mis en place les premières caisses d'allocation familiale et qui s'appelle c'est un type assez original, on va peut-être le retrouver plus tard ce gars-là. Comment il s'appelle, ça va peut-être me revenir. Bon, peu importe. En tout cas, Léon va discuter avec ce gars-là et va véritablement. Il était plus jeune que lui. Il vivra jusque dans les années, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est lui qui véritablement va créer le principe de caisse d'allocation familiale. Il était aussi chef d'entreprise, mais à des tailles beaucoup plus petites. Et il habitait Grenoble. Son nom m'échappe, mais on va peut-être le voir apparaître dans le... Voilà. Et puis, alors, vous voyez, on s'occupe aussi des accidents. On s'occupe des vétérans et puis bon, le chômage ça n'existait pas trop à cette époque quand même. Voilà, l'organisation sociale, et bien là aussi c'est assez les soins gratuits quoi, c'est ça, les soins gratuits, les médicaments gratuits,
tout un aspect culturel. On forme les gens, on les prépare à leur service militaire, etc. Donc voilà. Et puis l'organisation économique, eh bien, ils achetaient en commun avec une coopérative. Il y a véritablement une vie sociale, voyez. Mais tout ça, c'est pas les patrons, c'est les ouvriers qui s'en occupent.
C'est ça surtout qu'il faut bien voir.
Alors, associé à ça, il y a un urbanisme. Ça, c'est lié au fourriérisme et puis à l'école hygiénique du 19e. Hein. Vous savez, le fourriérisme avait créé ce qu'on appelle les familistères. Ça vous dit quelque chose? Les familistères, c'était les godins ou les poils godins qui avaient créé les familistères. Alors, ça n'avait rien à voir avec l'usine de Léon, c'était une caserne en quelque sorte. Vous voyez, tous les matins, il y avait le coup de sifflet, tout le monde se mêlait en même temps. Voilà, c'était la rationalisation de la vie sociale à travers un bâtiment, d'ailleurs, qui est très beau, qu'on peut visiter. D'ailleurs, il y en a deux en Europe. Il y en a un donc, du côté de Reims aussi, quelque chose comme ça, et puis un autre en Belgique. Voilà, et donc l'idée c'était de faire en tout cas un urbanisme qui était bien fait, hein, et des bâtiments bien faits, et avec une certaine esthétique. Alors, du temps de Léon, avec ses enfants déjà, ça a un peu dégénéré, mais il y a une véritable simplicité. Voilà, là en haut j'ai mis les maisons des ouvriers, et en bas la maison du patron. Vous voyez, rien d'extraordinaire, c'est pas le château. Et lui il a mis son église, et à côté il a mis l'église, comme ça. Il pouvait aller prier la nuit. Voilà. Parce que Léon, c'est quand même un homme pieux. Hein, et il prie la nuit. Il se lève la nuit et il prie la nuit. Voilà. Voilà un peu la tête de l'usine. Donc, c'est assez considérable comme surface. Voilà. Cette entrée-là existait encore. Elle apparaît dans le film, mais ça, on ne le verra pas. Donc, la maison du patron, la chapelle, et puis les maisons ouvrières, les jardins ouvriers, hein, qui sont mis en place pour que les gens puissent cultiver leurs légumes.
C'est sur combien d'hectares?
Ah, c'était important, hein. C'était quelque chose comme une dizaine d'hectares, hein, voire plus. Ouais. Donc moi, je suis allé et j'ai vu cette entrée là qui restait. Alors maintenant, tout a été rasé, tout a disparu.
Il faut tourner les pages.
Donc voilà quelques photos. Donc ça, c'était le fameux syndicat ouvrier en haut avec les fameux billards. L'église avec Notre-Dame de l'usine. Voilà. Alors, les fruits, qu'est-ce qui demeure comme fruits? L'idée d'abord que, au fond, l'action de Léon Armel était assez connue, y compris dans les milieux militaires. Maintenant, entre l'industrie et l'armée, il y a quelque chose d'assez proche. Et donc, regardez ce que dit Lyotès, c'est quand même assez étonnant, quoi. J'ai eu ma jeunesse élevée dans l'admiration de Léon Armel, que autour de Alderman, nous regardions comme le réalisateur. Et c'est le gars qui faisait réaliser aussi, comme je l'indiquais. Alors, avec cette tradition du Val de Bois à laquelle je cherche de loin et bien indignement à me rattacher dans mes modestes tentatives d'action morale. Bon, il a quand même été Lyotès, je ne sais plus quel était son titre en Algérie, mais enfin, ou au Maroc. Il gérait quand même un pays au moins grand comme la France. Donc, sa parole est modeste, oui, ça c'est sûr, mais il a fait beaucoup de bien aussi. Alors, les apports, ils sont. J'ai essayé de les classer. Il y a vraiment cet apport d'abord sur la famille, sur la question de la sursalaire. Voilà, Émile Romanet, c'est le gars que je cherchais. Et le fameux Émile Rollin, qui est certainement le créateur des caisses de la question familiale, dans le sens où lui, il a pris un bâton de pèlerin après la guerre 14. Il est allé voir tous ses copains chefs d'entreprise. Il leur a dit, il faut faire une caisse. Et tout le monde a fait des caisses, si bien qu'à la fin de l'entre-deux-guerres, il y avait des caisses d'allocation familiale privées dans toute la France qui étaient bien gérées. Et bien sûr, la carte d'aujourd'hui, c'est une caisse nationalisée. Et du coup, c'est mal géré. Et c'est le bordel. Et puis, en plus, on vole l'argent des familles. Que l'argent des familles sert à toute autre chose qu'à aider les familles. Bref. Voilà, donc l'apport, donc ces questions de sursalaire, comme juste salaire, hein, et non pas comme, j'allais dire, une espèce de droit, mais par souci de la dignité des familles et donc des personnes. Pour qu'ils aient les moyens, c'est le propos de Léon XIII dans la gouvernement, pour qu'ils aient les moyens eh bien, d'élever leurs enfants et d'exercer leur dignité, c'est-à-dire d'avoir des initiatives comme tout un chacun. L'apport, bien sûr, à cette question de l'homme et de sa relation au travail, voilà, c'est véritablement dans ces réalisations du comité d'usine, de tous ces conseils du syndicat ouvrier, que Léon, véritablement, j'allais dire, manifeste aussi son génie par rapport à la question ouvrière. La CFTC les EDC, j'aurais dû marquer les EDC ici, sont une de ses créations. Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. La CFTC, bien sûr, c'est part de son initiative, pas lui personnellement, mais des encouragements qu'il a apportés à ses premiers syndicats ouvriers. Voilà. Donc, cette question de la dignité de la personne dans le travail. On mettra quand même de nombreuses années pour avoir une encyclique, vous savez, sur le travail, hein, puisque c'est Jean-Paul II qui va rédiger l'encyclique Laborem Exercens il y a à peine 15 ans. L'apport aussi sur l'organisation sociale, bon, c'est plus classique, mais néanmoins, il l'a fait. Hein. Et souvent, il a montré à ceux qui voulaient l'imiter que la question, c'est pas simplement d'apporter ça, c'est-à-dire le confort, mais c'est surtout de donner ça, c'est à la dignité. Et si on apporte un confort, vous donnez à manger aux gens, mais vous les laissez pas libres, eh bien ils se révoltent. Et il y a eu des exemples très frappants à cette période-là, de gens qui ont voulu l'imiter et qui se sont plantés parce qu'ils voulaient rendre les gens dignes de toute force. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, et l'usine au sens d'une doctrine sociale, c'est-à-dire d'une mise en œuvre de l'Évangile, eh bien, c'est vraiment une préfiguration de ce que sera et la manière dont va se construire la doctrine sociale de l'Église. Hein. C'est aussi l'idée que la doctrine sociale de l'Église, elle n'est pas pondue par quelqu'un qui est à Rome, mais elle est d'abord une réalité de la vie de l'Église, et du souffle de l'Esprit Saint à travers ses membres, et que le pape, lui, ne fait que retranscrire, en quelque sorte, l'expérience vécue par les membres de l'Église. Et ce que Léon a vécu, et ce qui a été transcrit par Rerum Novarum, se retrouve aussi, par exemple, dans Caritas in Veritate. Hein. C'est l'expérience, en particulier, des Focolari au Brésil, qu'on retrouve avec l'économie de communion dans Caritas in Veritate. Voilà. Et puis enfin, ben, c'est quand même un exemple de proposition religieuse, dans le sens où c'est un homme qui n'a pas peur d'exposer sa foi, hein, d'organiser ses fameux pèlerinages, qui a une vie chrétienne, mais j'allais dire, qu'il n'impose pas aux autres. C'est ça qui est assez étonnant. C'est que dans cette usine, c'est pas parce que vous n'étiez pas chrétien que vous n'étiez pas embauché. Et vous pouvez vivre dans l'usine sans être, en étant un athée, entre guillemets. Hein, c'était pas un ordre. Le rapport à la foi et à l'Église est extrêmement juste dans le sens où la foi était proposée mais pas imposée. Et puis Léon a été un propagateur de Rerum Novarum, parce que Rerum Novarum a été très mal reçu, j'allais dire, par la France, ce qui va le faire créer les fameuses semaines sociales, hein, qui sont aujourd'hui ce qu'elles sont aujourd'hui. Semaine sociale. Voilà. Alors, les débats de son époque, trois essentiellement. C'est la question d'abord de l'engagement des chrétiens, et où il y avait ce fameux débat entre Albert Demain et Léon Armel. Et ça, c'était le cœur de leur opposition. C'est que Léon Armel considérait que l'engagement des chrétiens, il devait se faire sur le terrain de la conversion des cœurs.
alors que Albert Demain voulait être sur le terrain politique, militantisme, vous voyez. Et donc, ces deux positions, elles ne doivent pas être mises en opposition d'une manière dialectique, mais au contraire, elles doivent en quelque sorte s'unir, parce qu'elles sont toutes les deux nécessaires. Mais ça ne sert à rien de faire éditer des lois si par ailleurs, sur le terrain, les gens n'ont pas le cœur converti. On a toutes ces lois de bioéthique qui sont extrêmement néfastes, mais personne n'est obligé d'avorter. Voyez. Et donc, d'abord aussi, convertir les gens pour qu'ils ne fassent pas le mal, entre guillemets. Quoi. Donc, l'engagement des chrétiens, qui quand même est vraiment assez similaire aux questions qu'on se pose aujourd'hui. Quoi. Cette fameuse confiance dans l'homme. Voyez, Albert Demain... Albert Demain et son camarade René de la Tour du Pin sont des hommes, sont des aristocrates, etc. Et ils ont toujours une sorte de défiance, je dirais, par rapport au peuple, entre guillemets, voyez, au monde ouvrier. Alors que Léon, lui, il est finalement d'une extraction assez simple. Il vivra toujours de manière assez simple. Et il sera du coup capable de comprendre qu'il n'y a pas de raison de ne pas faire confiance aux personnes. Hein. Et de soutenir son initiative, j'allais dire, et par ailleurs, pourquoi pas lui proposer, j'allais dire, de répondre à ses aspirations spirituelles. Troisième point, c'est la question politique, au fond, avec le problème de la démocratie chrétienne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là. Donc, le bonhomme qui est là, là, c'est le cardinal Lavigerie. Hein, le cardinal Lavigerie était évêque d'Alger. Et le pape Léon XIII lui a demandé formellement de faire un discours pour dire aux Français qui étaient tous monarchistes et qui donc ne voulaient pas toucher à la République et donc participer à la vie politique que c'était pas possible. Si les chrétiens ne prenaient pas part à la vie politique, eh bien, on laissait tout entre les mains des francs-maçons. Donc, ayant compris ça, eh bien... il a demandé donc à ce cardinal d'avoir une parole publique pour apporter ce propos. Et donc c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'on a appelé le toast d'Alger, hein, donc en 1890, et que les monarchistes, et encore aujourd'hui, certaines populations françaises considèrent que c'est un ralliement à la République, de la papauté et de l'Église. Ben, non, l'Église a toujours considéré, le Christ social de l'Église, que on n'avait pas à soutenir un régime particulier, hein, mais par contre qu'on devait participer. Ça fait partie des principes de la Christ social de l'Église, c'est qu'on devait participer. Voilà, cette participation, c'est ce qui était demandé dans ce ralliement. Il est resté, donc, malgré les explications de Rerum Novarum, des sortes de contresens, et donc le pape a dû, en 1901, rédiger une nouvelle encyclique qui s'appelle Graves de Communire et qui est publiée en français, pour les Français en quelque sorte. Même si elle s'adresse au monde entier, elle est spécialement pensée pour les Français. Et donc dans ce document, le pape, à l'intention des Français, va préciser ce qu'il entend par la fameuse démocratie chrétienne. Vous voyez, la démocratie chrétienne, dans l'esprit de Léon XIII, c'est pas qu'on soit devenu des républicains, c'est pas une adhésion à un parti politique, c'est la démophilie, c'est l'amour des personnes, l'amour du peuple, et de s'occuper du peuple. Et c'est ce qu'il dit ici, voilà, hein, dans cette petite phrase, hein, qui est là. Et ce texte-là, enfin, je pouvais aller le télécharger sur Internet, c'est au moins lire les deux premières pages. Le pape, j'allais dire, donc, met les points sur les i en ce qui concerne ce problème de la démocratie. Je soulignerai en passant que saint Thomas a dit que le prince, c'est-à-dire celui qui gouverne, est le vicaire de la multitude. Ça veut dire qu'il exerce pour, au nom de la liberté des personnes. Voyez. Et donc, c'est pas une espèce de despote. Voyez. Hein, donc, véritablement, dans la pensée de l'Église, celui qui gouverne, il doit avoir un sens démocratique, mais au sens chrétien du terme. Voilà. Voilà.
Alors donc, pour conclure, je pense que vraiment, c'est un dans une France qui est véritablement irréconciliée, et c'est le cas encore aujourd'hui, entre les monarchistes et les démocrates, entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards, entre les Gallicans et les ultramontains. Vous savez que les Gallicans sont ceux qui, du fait de la politique de Louis XIV, voulaient, j'allais dire, avoir une politique religieuse indépendante par rapport à Rome, alors que les ultramontains sont ceux qui disent le contraire, qu'il faut être qu'avec Rome. Ouais. Non, l'Église, c'est quelque chose de plus universel. Entre les libéraux, bien sûr, et les socialistes, entre le Sillon, l'Action française, et il y en a d'autres, peut-être, qu'on peut trouver. Je ne sais plus à quoi je pensais tout à l'heure, mais de fait, on peut très bien... Oui, entre capital et travail, par exemple. Vous voyez, par rapport au travail. Pour aussi, vous voyez, c'est encore des débats qu'on a aujourd'hui. Et donc, par rapport à cette France irréconciliée, Léon, il n'est jamais dans ces débats. Jamais. Il est ailleurs. Il est ailleurs comme celui qui suit le Christ. Et comme le Christ, lui, il n'est jamais non plus dans des débats de ce type-là. Il sait être ailleurs. Voilà. Et il sait ailleurs parce que c'est un homme de prière, parce que c'est un homme de foi, parce que c'est un homme qui a une vie sacramentelle. Voilà. Et j'ai voulu vous montrer à la fin quelque chose qui est assez amusant, c'est Notre-Dame de l'usine. Voilà. Alors, on ne peut pas lire le texte, mais il y a la prière de Notre-Dame de l'usine. Parce que c'est l'usine chrétienne avait une mère, c'était Notre-Dame. Voilà.
Merci. J'étais un peu long, peut-être. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. C'est une belle vie, n'est-ce pas?
Ah oui, ça donne envie vraiment de la connaître.
Lisez le livre de Guiton. Ouais. Ça se trouve sur le livre de Guiton, se trouve à 5 francs, sur 5 francs, 5 euros, sur Amazon. Ouais.
Oui, alors un petit peu, Ozanam était un petit peu avant.
Ouais. Ozanam, il a dû naître dans les années 1815, quelque chose comme ça.
Ouais, je sais pas, il faut regarder. Ouais. Et puis il meurt assez jeune, Ozanam.
Ouais.
Puis c'est un homme très différent, c'est d'abord un universitaire.
Un universitaire, oui, c'est vrai, ouais. C'est la charité.
Ouais, c'est assez intellectualisé, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Il arrive à sortir de ça. Ça, oui. C'est vrai. On m'avait demandé de faire une conférence sur Ozanam. J'ai décliné. Alors, Ozanam. Oui, 1813. Il est né en 1813, Ozanam.
Et il meurt en 1840.
Et il meurt en 1853. Donc, par rapport à Léon, vous voyez, Léon est né en 29. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est le même contexte. C'est exactement le. Et le Ménian est inspiré par Ozanam. Je me demande même s'il n'y a pas un lien entre Ozanam et Ménian. Ça, je ne me souviens plus. Mais c'est compliqué, hein, cette période de ce point de vue-là.
Et alors, je n'ai pas compris pourquoi il démissionnait des cercles.
Il démissionne des cercles à cause de cette question des syndicats mixtes. Il n'est pas d'accord avec ça. D'accord. Et c'est fondamental. C'est fondamental. Et en plus, c'est Jérôme de Baum. Jérôme de Baum dit qu'il faut des syndicats dirigés par des ouvriers. On ne comprend pas d'ailleurs. C'est mystérieux. Mais ça reste dans cet esprit, cette espèce d'esprit d'un régime, d'ancien régime, de la société d'ordre. Quoi. On n'en sort pas. C'est sur ça, là, cette question de la démocratie, ça reste pas clair, la question de la démocratie, même aujourd'hui. Quand Christine Boutin a créé son parti, là, c'était équivoque. Léon XIII avait dit à Albert Demain, ne crée, parce que Albert Demain voulait créer un parti chrétien. Mmh. Léon XIII lui dit non, sinon vous tombez dans le piège de la confusion. Engagez-vous mais avec un parti voilà, politique qui promet qui a une doctrine qui soit chrétienne, mais ne l'appelez pas chrétien. Ce qui est chrétien, c'est la personne, c'est pas le parti. confiance dans l'homme, ben, elle demeure. Hein, le problème de la confiance dans la dignité, une société comme la nôtre, où on est quand même avec des gouvernements très, très jacobins, vous voyez l'histoire encore de Notre-Dame-des-Landes. Je sais pas, je connais mal le dossier, mais de fait, on fait voter les gens, puis après on leur dit, on n'a rien à foutre de votre vote. Ou quand on a voté pour la... pour l'Europe, vous voyez, pareil, on nous fait voter, puis après, on a un peu de... Voilà. La dignité des hommes. Et puis, l'engagement des chrétiens, ben voilà, c'est vrai que la foi n'est pas très décomplexée, quoi, hein, ça, c'est sûr.
C'est finalement très actuel.
C'est très actuel.
Très
actuel. Mais on a des périodes qui se ressemblent beaucoup, qui sont similaires, quoi. Il faut peut-être y aller, il y a la messe, là.
Mais vous avez posé des questions ou
oui,
vous avez des questions, vous avez les réponses.
Bon, moi j'ai été payée, j'ai le passe. Donc on est tous au cinquième étage.
Ah d'accord. Donc Bitteschön, Bitteschön.
Et
alors je vais avoir des problèmes.
Corinne Benjean.
Oui, c'est moi.
Merci de votre écoute attentive.
Merci. Et de vous avoir rencontré, c'était très sympathique.
Il vous a convaincu qu'il a joué un rôle dans la doctrine? C'était super. Enfin, moi, comme ouais. Tout ce que j'ai entendu, tu sais, ce qui serait super, c'est de mettre l'enregistrement de ta voix sur le PowerPoint en vidéo sur YouTube, tu sais.
Si tu veux, ouais.
Parce que ça, c'est dommage que ça ne soit pas.
Et oui, ça s'appelle comment le livre?
Léon Armel, tout simplement. Ouais. Ou alors, il y a peut-être un autre titre, mais c'est très proche. Je ne sais pas qui est le portable, peut-être les femmes.